Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, bienvenue si vous nous rejoignez. Oui, un petit peu enrhumé, donc un petit peu compliqué ce matin. Nous sommes le vendredi 24 janvier avec vous aujourd'hui pour débattre. Yvan Rioufol, éditorialiste au Figaro, et vous venez tout juste de publier Les Traîtres aux éditions Pierre-Guillaume de Roux. Qui sont les traîtres?
Les traîtres, ce sont tous ceux qui ont abusé de notre confiance depuis maintenant 30 ans, 40 ans.
Alexis Bachelet, ancien député PS, chef d'entreprise, AB Consulting, bonjour. Najwa El Haïté, bonjour, élu d'Evry, et vous avez publié Laïcité et République aux éditions L'Harmattan. Et Matteo Ghisalberti, rédacteur en chef de Putsch, le nouveau média franc-tireur.
Bonjour.
C'est comme ça qu'on dit bonjour à vous. On va parler d'Emmanuel Macron et de ses propos, de sa colère dans l'avion qui le ramenait d'Israël hier. Comment il s'est exprimé contre ceux qui traite la France de dictature. Pour lui, la France n'est pas une dictature. Essayez la dictature, vous verrez, on va en reparler. La réforme des retraites, la mobilisation est toujours là. La grève est finie, mais les actions se multiplient. Le Conseil des ministres, vous le savez, ce matin, doit examiner cette loi. Et puis, Mila, je suis Mila, je ne suis pas Mila. Ces propos sont-ils une incitation à la haine raciale? Le parquet a décidé de se saisir effectivement des attaques que cette jeune fille de 16 a reçu, mais dans le même temps a décidé également d'instruire une plainte pour incitation à la haine raciale. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Commençons avec Najwa, peut-être, c'est vendredi, avec quelque chose d'un petit peu plus léger.
Oui, quelque chose d'un peu plus léger. Donc mon coup de cœur va à l'enfant terrible de la mode, Jean-Paul Gaultier. Donc, comme vous le savez, il tire sa révérence après 50 ans de carrière dans la mode, et moi j'ai toujours aimé ce créateur, parce qu'il a créé une vraie révolution. C'est-à-dire que dans ce milieu très codifié, eh bien, il a mis en avant des mannequins seniors, des mannequins également en surpoids. Et donc ça, il faut lui tirer notre chapeau quand même. Hein. Ouais. Et il est l'auteur aussi de créations très connues, comme le bustier à bonnet de conique porté par Madonna, ou son célèbre pull marin et ses marinières. Donc, comme il le disait justement, un souvenir de sa grand-mère qui l'habillait en bleu. Donc voilà, je voulais
lui rendre hommage
aujourd'hui.
Et il s'est exprimé, on en a parlé dans la première heure hier dans l'émission quotidienne, en disant qu'aujourd'hui, il y avait trop de vêtements, trop de marques, trop de vêtements, qu'on achetait trop de vêtements. Donc ça peut être paradoxal, mais en tout cas, c'est ce qu'il disait hier. Alexis, peut-être Yvan, un coup de gueule?
Un coup de gueule ou un coup de cœur, parce qu'on a tous applaudi à MeToo, Balance ton porc, en disant que la parole des femmes avait à se libérer face aux sagouins qui naturellement les brutalisaient. Tout le monde en était d'accord. Et en même temps, dès cette époque-là, j'étais de ceux qui dénonçaient aussi cette chasse au mal, en tout cas, qui était présumé coupable. Et on a vu qu'il y a eu quand même quelques affaires qui sont terminées par des diffamations. Et donc là, très dernièrement, et ça, on en parle assez peu, c'est la Alexandra Besson, la fille du ministre Besson, qui avait accusé Pierre Joxe, cette figure du socialisme, de l'avoir harcelé sexuellement lors d'un opéra, mais c'était en 2010, c'est donc 8 ans après, parce qu'elle avait cette déclaration, et Joxe s'en est défendu, et le tribunal vient de donner raison à Joxe et a condamné Madame Besson pour diffamation. Et donc ça revient également à cette même condamnation pour diffamation qui avait été celle contre Sandra Müller, qui avait également accusé Éric Brion de l'avoir harcelé, etc. Et Éric Brion avait perdu son travail, il avait eu des difficultés dans sa propre famille, enfin avait vu sa vie brisée, et également il a été redéfendu, et donc ça pourrait être un coup de cœur, défendu par la justice qui a reconnu qu'il avait été diffamé. Donc voilà, ça équilibre un peu quand même, malgré tout, cette grande opération de libération de la parole, qui en soi n'a rien de contestable, bien sûr, mais qui quand même a été l'occasion de lynchage sur la place publique, et il est bon que la justice rétablisse l'équilibre.
Moi, je m'interroge toujours sur l'intérêt d'une jeune femme, en l'occurrence celle-ci, de porter ça sur la place publique, parce que quand on voit ce qu'elles se prennent dans la figure en général aussi, Je vois pas l'intérêt.
Je n'ose pas croire que c'est pour accéder à une notoriété.
Non, parce que c'est pas une très bonne notoriété quand on pense à ce qu'a vécu.
Au début, ça peut l'être quand même.
Mais ce qu'a vécu Tristan Bannon, par exemple, elle a estampillé à vie sur le front DSK. Donc, je suis pas sûr que ce soit une notoriété de très bonne aloi. Après,
en tout cas, quand on fait ces genres d'accusations, faut être sûr de ce que l'on a. De ce que l'on avance, et
oui,
en l'occurrence,
mais là,
c'était faux.
Oui, mais après, j'ai eu ce débat avec un ami, et c'est vrai que quand on dénonce des faits 8-10 ans après, on a parfois aussi des pans entiers qu'on occulte pour connaître certaines victimes qui ont complètement oublié ou qui mélangent des choses. Donc voilà, mais la justice, vous avez raison, a blanchi, en tout cas, Pierre Jox. Moi, je voudrais soutenir la journaliste Agathe Lambray sur BFM qui, en direct, a dit Yasser Arafat plutôt que Mahmoud Abbas. Donc là aussi, c'est un déferlement de haine sur les réseaux sociaux, de moquerie. Je pense qu'on a tous, quand on est journaliste, eu fait des lapsus. Moi, ça m'est arrivé sur LCI, je commentais une cérémonie d'hommage. Enfin, c'était la Seconde Guerre mondiale et j'ai parlé des poilus parce que le mot m'était pas venu et voilà, et c'était grotesque. Et ça peut arriver. Je pense que cette journaliste fait son boulot correctement, qu'elle sait très bien qu'Yasser Arafat est mort. Le lapsus, ça arrive et que ça ne mérite pas, encore une fois, là aussi, ce lynchage sur les réseaux. Alexis, coup de gueule ?
Oui, coup de gueule, parce que c'est un des sujets de l'émission d'aujourd'hui. Je pensais qu'on allait faire la transition, mais...
On a aussi Mathéo, qui a un sujet qui fait transition, mais peut l'aborder.
Sur le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, puisqu'on en a déjà parlé ici. Moi, je me rappelle, j'avais dit, quand il a été nommé, que... on allait avoir des soucis. On avait du souci à se faire. Et depuis, je constate que, malheureusement, on va de polémique en polémique sur, à la fois, évidemment, l'état de moral de notre police, mais aussi un certain nombre de dérives qui n'ont jamais été condamnées. Puis, d'un seul coup, le président Macron parle de violence policière, alors que ça fait... 18 mois, enfin plus d'un an, qu'il y avait déni total. Il y a des voix qui se lèvent pour dire mais qui a introduit le LBD, qui est on est un des rares pays en Europe à utiliser ce type d'arme qui a provoqué beaucoup de dégâts dans les manifestations. Est-ce qu'il n'est pas temps, effectivement, d'envisager de retirer cette arme des mains de la police pour choisir d'autres méthodes, d'autres outils pour le maintien de l'ordre. Les autres pays s'en sortent. En Angleterre, il y a du maintien de l'ordre, en Allemagne, dans les grandes démocraties. Et puis, on parle aussi, enfin, peut-être de l'IGPN. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi de créer un véritable corps indépendant du ministère de l'Intérieur pour inspecter le travail des policiers, sans remettre en cause évidemment leur déontologie, et on sait tous qu'ils sont majoritairement républicains et qui respectent la loi et ils la font appliquer. Voilà, donc, et dans tous ces débats-là, on a l'impression finalement que Castaner subit, qu'il a toujours un train de retard. Lui-même a souvent fait des bourdes, il a fait des déclarations, on se rappelle au moment de l'hôpital, il avait parlé d'intrusion dans l'hôpital, alors qu'en fait, visiblement, c'était pas une volonté de pénétrer, mais qu'il y avait eu, ils avaient été repoussés, les gens avaient été repoussés par les CRS, enfin bref, c'est que des bourdes, et on se dit, enfin c'est quand même inquiétant, parce qu'en France, le ministère de l'Intérieur, ça a souvent été des gens quand même relativement incontestables. On a parlé tout à l'heure, il y a eu Pierre Jox, il y a eu avant lui Gaston Defer, il y a eu, on pourrait citer de droite comme de gauche, même si j'étais pas d'accord, Nicolas Sarkozy, quand il était ministre de l'Intérieur, il faisait le job. Il y a eu aussi des problèmes à son époque, mais on pouvait pas dire qu'il assumait pas. Là, on a vraiment l'impression qu'il y a un ministre de l'Intérieur qui est pas capable, en fait, d'affronter une situation, certes, qui est compliquée, je le nie pas, depuis le mouvement des Gilets jaunes. C'est pas évident de maintenir l'ordre en France, mais en fait, on a l'impression qu'on n'a pas de réponse à un certain nombre de questions légitimes qui ont été posées, que ce soit d'ailleurs à charge ou à décharge. Moi, il ne s'agit pas de dire c'est de la faute de la police, il ne s'agit pas de dire c'est de la faute des manifestants. Je pense qu'il y a un travail à faire, mais ce travail-là, malheureusement, n'est pas fait, et en tout cas, on n'a pas un ministre qui est capable de faire face à ces enjeux et à ces questions.
Oui, un commentaire.
Je trouve qu'effectivement, je me trouve d'accord avec Alexis Bachelet, parce que en fait, on a vu le ministre de l'Intérieur chargé par parti pris, disons, les manifestants aussi à l'occasion de d'autres manifestations, sans avoir un sens un peu d'autocritique aussi. Là encore une fois, les policiers sont soumis à des temps de travail, à des situations de travail très 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 difficiles. Ils sont menacés par les terroristes. et on sait ce qui s'est passé dans les derniers mois. Ceci dit, effectivement, c'est un peu bizarre de voir sortir tout d'un coup cette changement d'idée. Et effectivement, je pense qu'on devra arriver... Enfin, je le trouve positif, l'histoire de que quelqu'un se pose la question sur les LBD, parce qu'à mon avis, on devra arriver à des formes de comment dire, dédommagement des blessés qui ont été marqués à vie. Mmh. Estropiés, aveuglés, écorniés. Enfin, je veux dire...
Oui, Yvan.
Moi, je pense que Castaner, en effet, a une part de responsabilité, mais la responsabilité, je la ferai peser sur le président lui-même, qui a instrumentalisé d'une manière politique la réponse policière pour en faire une réponse qui, de mon point de vue, a été surdimensionnée par rapport à la menace qui était celle, en tout cas, des Gilets jaunes du départ. Parce que moi, j'étais avec eux au départ, je ne voyais pas les factieux qui étaient décrits par le discours du président. Et ensuite, je pense que l'autre responsable également, qui a été, lui, nommé par Castaner, c'est le nouveau préfet de Paris, qui a changé de stratégie, qui a fait de la brutalité une réponse quotidienne. Et là aussi, je pense que c'était disproportionné par rapport à la menace et que ça a alimenté cette sorte de poussée aux extrêmes, ce mimétisme qui fait qu'aujourd'hui, on peut mettre sur malheureusement, parce que je le regrette, on peut mettre sur un plan d'équivalence la brutalité policière et la brutalité de l'extrême gauche, en l'occurrence, parce que c'est surtout elle qui manifeste aujourd'hui.
Oui. Alors, on va passer à votre coup de gueule.
Ah, mon coup de gueule, c'est un peu ce coup de gueule du président de la République Emmanuel Macron, dans l'avion qu'il a ramené en France depuis Jérusalem. Il a dit, mais aller en dictature, une dictature, c'est un régime où personne...
On a le son, donc on va marquer une pause, on va revenir, puisque vous faites la transition vous-même.
J'y vais.
On va revenir avec ce sujet. Effectivement, la France est-elle en dictature? Ce matin, d'ailleurs, Ségolène Royal lui a répondu que oui, on était dans un régime autoritaire. On va écouter le président de la République dans un tout petit instant.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
On est ensemble sur Sud Radio jusqu'à midi et le débat continue. Donc Matteo Ghisalberti, vous évoquiez ce coup de gueule du président de la République hier dans l'avion qui le ramenait de Tel Aviv à Paris. On va écouter ce que disait Emmanuel Macron.
Et aujourd'hui, c'est installé dans notre société et de manière séditieuse par des discours politiques extraordinairement coupables.
Vous pensez...
l'idée que nous ne serions plus dans une démocratie, qu'il y a une forme de dictature qui s'est installée. Mais allez en dictature. Une dictature, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois. Une dictature, c'est un régime où on ne change pas les dirigeants, jamais. Si la France, c'est cela, essayez la dictature et vous verrez. La dictature, elle justifie la haine. La dictature, elle justifie la violence pour en sortir. Mais il y a en démocratie un principe fondamental, le respect de l'autre, l'interdiction de la violence, la haine à combattre. Tous ceux qui aujourd'hui dans notre démocratie se taisent sur ce sujet sont les complices aujourd'hui et pour demain de l'affaiblissement de notre démocratie et de notre République.
Essayez la dictature et vous verrez.
Essayez la démocratie et vous verrez aussi. Enfin, je force un peu les traits dans le sens... Moi, je ne trouve pas que la France soit une dictature. Mais en même temps, je trouve qu'il y a des signaux très, très, très préoccupants. Je fais référence au fait que, de toute façon, quand l'opposition essaye de prendre des positions différentes à celles du gouvernement, elle est marquée comme si elle était non républicaine, anticonstitutionnelle, etc. On l'avait vu, par exemple, avec l'affaire Benalla, où la commission des lois de l'Assemblée nationale, finalement, elle a fait pchit parce que c'était à majorité en marche, alors que celle du Sénat a continué à travailler, et elle a sorti plein d'informations que les citoyens devaient connaître. Et puis, désolé, mais moi, j'ai couvert plusieurs manifestations. Honnêtement, je suis très perplexe quand je vois comment même les journalistes, je sais pas qu'ils sont en dessus de la loi, mais les journalistes sont traités vraiment avec violence aussi. Mais si cette chose-là était faite par d'autres leaders qui sont considérés comme populistes par M. Macron ailleurs en Europe, ça serait la fin du monde. La fin du monde. Ou si Donald Trump faisait ça, enfin, désolé. Et s'il dit que nous ne sommes pas en dictature, alors pourquoi pas faire un peu plus de référendum?
Mais faisait quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous lui reprochez Concrètement.
En tout cas, quand on est, quand on fait matraquer des citoyens.
Ce sont des manifestations. Enfin, j'essaye de resituer dans le contexte. Oui. Il y a pas des gens dans la rue qui aujourd'hui avec des matraques tapent sur des gens au coin de rue. Il y a un contexte. Il y a pas des milices.
Dans une manifestation, mais quand même, le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel. Et donc, quand on tire avec.
Mais il y a des manifestations. Encore une fois, j'argumente. Il y a des manifestations quand vous voyez la manif pour tous, la paix contre la PMA, il n'y a pas eu d'agression, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de choses comme ça.
Il y en avait eu quand il y avait Manuel Valls
comme
ministre de l'Intérieur, mais bon, ça
oui,
c'est...
mais il y a des manifs pour lesquels, ce que je veux dire, c'est que le droit de manifester n'est pas interdit en France.
Alors,
et qu'il y a des manifs qui se passent bien.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas de violence dans les manifestations que j'ai vues. Je continue à dire que les policiers sont soumis aussi à un stress très, très, très important. En même temps, je trouve que parfois, ils tirent sans réfléchir pratiquement sur des cibles qui sont des citoyens. Mmh. Et après, on les voit à l'hôpital avec des blessures, etc.
Yvan, Youfol,
c'est
de la communication. Hein,
c'est
ce
de la communication,
fait,
il grossit le trait, parce que j'entends peu de gens dire qu'on est en dictature. On n'est pas en dictature, sinon on ne serait pas autour de cette table en train de discuter très librement. Et donc, il laisse comprendre que ceux qui le critiquent alimenteraient cet argument, qui serait un argument irrecevable, et que donc eux-mêmes seraient irrecevables, et que donc c'est sa personne même qui serait la victime de fake news. Enfin, on connaît ce raisonnement un peu alambiqué de la part du pouvoir. Moi, je ne parle pas de dictature. En revanche, également dans mon livre que vous avez cité tout à l'heure, je veux bien parler de macrocrature, c'est-à-dire que je parle d'un pouvoir personnel, d'un pouvoir qui s'est retranché sur la seule personnalité extravertie de ce président de la République, qui n'entend pas les colères des peuples, ça se voit maintenant depuis un an et demi, et qui s'ajoute tout de même à quelques éléments qui me font dire que si on est en démocrature, on se rapproche de plus en plus également de ces démocraties illibérales dont il accuse les pays de l'Est d'en être les victimes. C'est-à-dire que, d'abord, il y a un parti unique. Aujourd'hui, en France, c'est le parti de La République En Marche, parce que c'est lui qui monopolise tout et qui fait que le Parlement est un Parlement
corrompu. C'est le parti qui a été élu. Enfin, je veux dire,
les faits montrent, que dans cette répartition de cette démocratie malade, le parti unique s'est installé. Et que quand le Sénat veut faire son rôle de contre-pouvoir, le Sénat est accusé d'être séditieux ou quasiment. Il y a encore d'autres marqueurs qui me font dire qu'on est en tout cas dans un régime très autoritariste, même pas autoritaire, c'est-à-dire faible, mais qui se protège par des artifices. C'est que lorsque, pour la liberté d'expression, vous avez une série de lois qui ont été prises ces deux dernières années qui aggravent encore davantage les mises sous surveillance de la parole. Je veux parler de la loi Avia qui veut traquer les propos haineux sans donner de définition exacte de ce qu'est la haine. La haine, elle peut être pour l'un ou pas pour l'autre. Et puis vous avez la loi sur les fake news qui veut donner aux juges le monopole de dire si cette vérité est à entendre ou pas. Vous avez le CSA qui a encore des pouvoirs accrus, bref, etc. Vous avez tout ceci qui concorde pour dire que moi, je pense qu'on est en tout cas dans une sorte d'oligarchie qui se protège et qui voit bien qu'elle ne peut, comme elle n'arrive pas à répondre aux exigences aujourd'hui de cette société éruptive, elle tente à, depuis le départ avec Macron, elle tente à caricaturer ceux qui s'opposent à elle, quitte à leur faire dire ce que ne disent pas les Français, parce que les Français ne disent pas, encore une fois, que nous sommes en dictature.
Oui.
Je ne vais pas être redondante, mais oui, nous ne sommes pas en dictature. Mais par contre, moi, j'ai une vraie source d'inquiétude, comme d'autres, c'est que on constate une vraie fragilisation des corps intermédiaires, les partis politiques, les syndicats qui se font entendre là actuellement, mais on peut être inquiet de cette fragilisation. Et puis, cette fragilisation de ces corps est même préoccupante pour le président de la République qui se trouve en première ligne, et qui subit d'ailleurs des violences, des propos extrêmement violents. Moi, c'est la première fois que j'entends dans les manifestations des manifestants qui souhaitent décapiter le président de la République. Et
on
même des mises en scène.
Dans les retraites au flambeau, hier, la tête de Macron sur une pique.
Rappelant une époque sombre, mais en tous les cas, qui a fait naître ensuite, qui a fait jaillir une certaine lumière, plus de droits. Mais néanmoins, on assiste vraiment à une violence de la société. Et moi, à ma connaissance, j'ai été manifestante parce que j'étais ancienne aussi syndiquée et notamment étudiante. Je n'ai jamais entendu des propos aussi violent concernant un président. C'est la première fois.
On se retrouve dans un instant et vous aurez la parole, Alexis Bachelet. Vous n'êtes pas censuré, ne croyez pas.
Voilà. Oui, moi aussi, parce que
j'ai manifesté aussi il y a longtemps.
Allez, on se retrouve dans un instant.
Décapitation. Oubliez la violence des propos du président lui-même.
0826-300-300. À tout de suite si vous voulez réagir sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, avec Yvan Rioufol, éditorialiste au Figaro. Je rappelle votre livre qui vient tout juste de paraître, Les Traîtres, aux éditions Pierre-Guillaume de Roux. Alexis Bachelet, ancien député PS, vous êtes aujourd'hui chef d'entreprise à B Consulting. Najwa El Haïté, élu d'Evry, et vous avez publié Laïcité et République chez L'Harmattan. Et Matteo Ghisalberti, rédacteur en chef de Putsch. Nous parlions donc de la colère d'Emmanuel Macron contre ceux qui traitent la France de dictature. Alexis Bachelet, sur ce coup de gueule du président.
Non, mais moi, ce que je dirais, c'est que on a quand même aujourd'hui un climat dont moi, je ne me souviens pas qu'on l'ait connu à ce point d'hystérie, de tension entre un pouvoir et...
C'est ce que disait Najwa juste avant le...
Oui, absolument, avant je souscris.
Moi, vous dodelignez de la tête.
Non, je dodelignais parce que... parce que d'abord, il y a déjà eu, dans l'histoire de la Ve République, des moments de concertation extrêmement forts d'un pouvoir.
Hein, c'est 68.
C'est arrivé, mai 68, mais même à l'époque de Nicolas Sarkozy était président, il y a eu aussi des gros mouvements en 2010 sur les retraites, donc je ne suis pas sûr qu'à ce moment-là, il n'y avait pas des gens qui étaient déjà très, très remontés contre le président de la République. Et moi, j'étais dans le quinquennat de François Hollande, je me rappelle, dans la manif pour tous, il y avait quand même des gens qui tenaient des propos envers le pouvoir, envers le président de la République, envers Christiane Taubira aussi. Donc il y avait
des moments comme ça. Mises en scène de décapitation aussi.
Il y a des Christiane Taubira,
des mises en scène de décapitation. Non,
c'est une question précise.
La mise en scène de décapitation, elle est liée au 21 janvier, la décapitation de Louis XVI, et il y a des gens qui trouvent ça intelligent de faire un rapprochement et de se féliciter. J'ai même vu des gens qui étaient presque contents qu'on ait décapité Louis XVI. Je trouve ça ridicule. Je veux dire, même si c'est, on ne peut pas comparer cette époque-là avec la nôtre, de toute façon, se féliciter que quelqu'un ait été décapité.
Et la peine de mort est abolie.
C'était parce qu'il y a des pays où on a changé de régime et on a fait tomber la monarchie sans décapiter le roi. Donc il n'y a pas de fatalité à cette violence-là. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je prends un exemple concret. Moi, personnellement, et beaucoup de gens que je connais, ne vont plus manifester. Ne vont plus manifester. Enfin, je veux dire, le droit de manifester, il est constitutionnel. Donc,
c'est dangereux,
pourquoi est-ce que des gens... Moi, c'est mon cas, j'ai été comme Najwa engagé, j'ai souvent été manifesté sans me poser la question. On me dit, tiens, contre le CPE, contre... J'y allais, et je me disais pas, je vais repartir avec un œil en moins, je vais me prendre du gaz systématiquement, je vais me faire tabasser, etc. etc. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont dans cet état d'esprit, qui diront, moi, je n'irai pas manifester, parce que le climat est détestable et parce qu'ils ont autant peur peut-être des Black Blocs et de ces extrémistes salissent. Mais ils ont aussi peur des réactions du pouvoir et d'un excès de force, d'usage de la force.
Le mot de dictature, donc c'est ce mot-là.
Moi, je ne dis pas qu'on est dans la dictature. Moi, je trouve que tout ça, c'est excessif et que d'ailleurs, ce n'est pas dit par des gens sérieux. C'est dit par des groupuscules, par des extrémistes. Mais qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent quand même une forme d'autoritarisme. Un excès de pouvoir, un excès d'usage de la force qui, effectivement, perturbe les démocrates que nous sommes parce qu'on aimerait quand même vivre dans un pays où on peut aller manifester sans avoir peur d'être systématiquement agressé ou pris entre deux violences, même si je ne les mets pas sur le même plan, évidemment. Je ne compare
absolument
pas. Mais quand même, il y a ce climat-là.
On a René en ligne avec nous. Bonjour, René.
Bonjour.
Vous nous appelez de Toulouse.
Oui, enfin de l'Ariège.
D'accord. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire ?
Eh bien, écoutez, moi, simplement, je vais bien vous dire que je ne suis pas en dictature, mais tout de même, je suis en non-démocratie. Pour moi, la non-démocratie, c'est mettre en place de la répression pour faire peur et pour dissuader les gens qui manifestent par des violences policières, par des mutilations et graves blessures, par des gardes à vue. Simplement parce que vous sortez d'une bouche de métro au mauvais moment. Et parce que vous manifestez pour faire passer des lois par autorité, alors que 60% des gens sont contre les lois, Ça, c'est pour moi un manque de démocratie. Il devrait y avoir la possibilité de mettre en place, ou bien par référendum, mais que les gens puissent s'exprimer sur des situations ou sur des réformes qui mettent la vie de la France et du peuple français en jeu. Ouais. Pour moi, la démocratie, c'est avant tout de... ce n'est pas de donner le pouvoir à un homme qui n'a eu que 20% des voix au premier tour, même si le reste, les autres voix lui ont été pour éviter le chaos, parce que maintenant, le chaos, on y est.
Ouais. Merci René de cette intervention. Vous vouliez réagir, Yvan Rioufol?
Je voudrais rétablir, parce que un des arguments de Macron lors du Sénat, c'est de dire qu'il faut combattre la haine. Mais il faut quand même aussi rappeler que cette haine, elle a été portée d'abord par le président de la République lui-même, quand il a eu à affronter cette colère des rues qui était celle des Gilets jaunes. Rappelez-vous les propos ignobles, enfin de mon point de vue, qui ont été portés sur la lèpre qui monte, la foule haineuse. Il a traité les gens qui étaient sur les Champs-Élysées, j'étais avec eux, d'antisémites, de xénophobes, d'homophobes, etc. Ouais. Alors que j'étais avec des braves gens. Et je me disais, mais c'est pas possible qu'un pouvoir puisse se libérer à ce point de toute décence en accusant son propre peuple d'être ce qu'il n'est pas. Et donc, il ne faut pas non plus s'étonner ensuite que cette haine qui a été alimentée par le président de la République, je le répète, ensuite, naturellement, a eu des répercussions dans les autres propos. Parce qu'il y a eu quand même une sorte de légitime défense, si je puis dire, à répondre également sur ce même ton.
Oui. Après l'histoire de Benalla, il y avait eu aussi cette fameuse phrase « Venez me chercher, les responsables,
je suis là ».
Quelqu'un a répondu « Bon, on vient vous chercher ».
Qui vient de me chercher.
Encore une fois, on ne peut pas mettre sur la même... plein des réactions de la police et des violences de Black Bloc, parce qu'il y en a. Mais effectivement, encore une fois, moi je l'ai constaté avec mes yeux, et c'est filmé. On voit des gens qui sortent des bureaux à 17h autour de la gare de Montparnasse, qui se trouvent pris par des lances de grenades dans un encerclement, des gaz lacrymogènes. Il y avait même des familles. Enfin, qu'est-ce qu'on dit aussi à nos enfants parfois? Enfin, parce que, excusez-moi, mais on a, si, quand on est attaché à la démocratie, on ne peut pas se laisser aller comme ça.
Moi, j'ajouterais que cette auditrice dit quelque chose vraiment d'extrêmement important. Et ça me rappelle le livre de Pierre-Rosan Vallon, Le Parlement des Invisibles, qui disait que la démocratie, c'est pas uniquement élire des représentants.
Ça, c'est aussi le concept de la majorité du moment en France.
C'est aussi voir ses intérêts et ses problèmes représentés et défendus aussi. Et... j'allais dire plus visible. Et donc c'est ça aussi la démocratie. Et donc cette auditrice le dit justement, est-ce que la démocratie, il faudrait pas la rendre un peu plus participative,
c'est ce que tout le monde réclame.
Voilà.
C'est ce que,
sur certains sujets. Ouais, ouais. Sur
mais là, en l'occurrence, sur ce sujet-là, sur la réforme des retraites, où il y a une, visiblement, selon les derniers sondages, une majorité qui est contre cette réforme des retraites, à plus de 60%. Alexis Bachelet.
J'ajoute que... Emmanuel Macron est arrivé dans l'idée qu'il allait restaurer la quintessence de la Ve République. C'est-à-dire, après une présidence de François Hollande, où on avait eu le sentiment d'un président de la République qui avait du mal à se mettre dans le costume, Emmanuel Macron s'est vécu comme une sorte de monarque républicain qui devait restaurer. Et il a eu, dans la foulée de l'élection présidentielle, 350 députés à l'Assemblée nationale qui l'ont conforté dans sa vision un peu messianique du fait que pendant 5 ans, il allait faire tout ce qu'il voulait. Avec un discours, la réforme, vous allez voir ce que vous allez voir. Moi, je ferai mieux que tous les autres, je vais transformer le pays. Sauf que il est, à mon avis, totalement à côté de ce que voudrait une majorité de Français. C'est-à-dire qu'une majorité de Français ne rêve plus simplement d'avoir un monarque qui va décider de ce qui est bon pour eux pendant 5 ans, mais il rêve plutôt d'un système politique, et là ça renvoie aussi au fonctionnement de la Ve République, qui serait plus représentatif de la diversité des opinions et qui trouverait aussi des synthèses et des compromis sur certains sujets, parce que le passage en force, rappelez-vous, ça avait commencé déjà quand il y avait eu la loi travail, le 49-3 de Manuel Valls, ça lui a coûté très cher. Ouais. Manuel Valls, il a flingué sa carrière politique en assumant de passer en force sur un projet de loi qui n'était voulu ni par sa majorité, ni par une majorité de Français. Et Emmanuel Macron, quand il est arrivé au pouvoir, il s'est dit, je vais faire une autre loi travail qui va encore plus loin que celle de Manuel Valls et je la passerai par ordonnance. Et il utilise tous les leviers de la Ve République pour faire passer en force des projets. Et il est pas, et là, j'ai vu il y a quelques jours, ça m'a étonné, mais qu'il enterrait la dose de proportionnel à l'Assemblée nationale. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui récuse cette idée qu'on pourrait gouverner en tenant compte d'opinions différentes, bah. Et il est dans cette vision d'une Ve République qu'il fallait restaurer, où il se prend pour un messie et qui va conduire le peuple vers un avenir heureux, même si le peuple n'est pas sur cette voie-là.
On a Jacques en ligne qui veut réagir au 0826-300-300. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour Valérie, bonjour à vos invités. Oui, moi je voulais réagir. Bon, déjà d'abord sur la forme, je trouve ça un petit peu drôle, ce président qui s'exprime chaque fois qu'il prend l'avion. Donc chaque fois qu'il prend l'avion, il nous distille quelques petites phrases et quelques vérités de façon péremptoire. Ensuite, sur le fond, je pense que, certes, on n'est pas dans une dictature, si on pense à dictature style Union soviétique ou style
l'Amérique
du Chili de Pinochet. Hein. En revanche, on est sous une forme de dictature soft, contrôlée donc par une oligarchie, dont le bras armé ne serait plus la police ou l'armée, mais dont le bras armé est la police de la pensée, et avec, je dirais, une fabrique de l'opinion en permanence. Et le péché, le mensonge d'État qui conduit, qui n'est pas propre à Emmanuel Macron, le mensonge d'État qui est installé depuis des années, c'est la disqualification du Front National comme un parti non démocratique, ce qui a pour effet de fausser complètement le jeu et le débat démocratique en France, qui a pour effet d'exclure des millions de gens du débat démocratique qui sont disqualifiés. Citez-moi un seul journaliste qui a ouvertement pris part ou qui a défendu sur un projet de loi, sur une proposition, le Front National. Aucun média. Alors, on fait des circonvolutions, mais on ne dit jamais, on n'apporte jamais. Il n'y a pas un seul jour, dans les médias, je parle dans les grands médias, dans les médias de masse, je ne parle pas des supports comme Valeur Actuelle, L'Incorrect, ou ce type de support-là. Je parle des grands médias. Quel est le journaliste qui s'est ouvertement prononcé une seule fois pour Marine Le Pen? Donc on procède par disqualification systématique de ce courant de pensée, et donc ça fausse complètement le jeu démocratique. Et ça pourrait faire, effectivement, de mettre en place une forme de dictature soft. Voilà ce que j'avais à dire.
Oui. Alors Yvan, vous avez...
Moi je suis d'accord avec cette analyse, c'est-à-dire que je pense que Emmanuel Macron paye aussi l'erreur qu'il a faite de son analyse de la société. C'est-à-dire qu'il a défendu, il s'est défendu comme étant, représentant le progressisme, le mondialisme, l'universalisme, qui est le socle de sa réforme sur les retraites. Alors même que, et en France et ailleurs, dans l'Europe et aux États-Unis et en Grande-Bretagne, le grand courant de pensée qui tente à se révéler, c'est au contraire un anti-mondialisme, un anti-progressisme, si je puis dire, en tout cas un conservatisme. Et ce conservatisme, en effet, il est porté aujourd'hui par Marine Le Pen, qui est la meilleure des représentantes politiques à avoir analysé aujourd'hui quel est ce besoin des peuples d'être protégés dans leur identité, mais également dans leur vie quotidienne, dans leur sécurité sociale, si je puis dire, enfin, dans leur sécurité économique. Et donc, il empêche, en effet, ce monsieur a raison de le dire, je ne le dirai pas de la même manière, mais il empêche tout un courant de pensée qui devient peut-être même un courant majoritaire, ce courant conservateur, pour aller vite, mais qui n'est pas représenté simplement par Marine Le Pen, il est aussi représenté par une partie de la droite, mais elle qui n'ose pas s'exprimer. Il empêche ce courant-là de s'exprimer et de faire alliance. Car en fait, s'il tient et s'il pense être réélu, c'est parce qu'il entend effectivement empêcher cette alliance que je défends, moi, entre les droites, c'est-à-dire également entre le Rassemblement National et une partie des Républicains. Et c'est ceci qui est une pensée interdite et qui accentue cette oppression intellectuelle, en tout cas cette oppression idéologique.
C'est ce que disait effectivement Jacques, notre auditeur.
Je pense que le problème est dû à un manque de contre-pouvoir. C'est tout simplement ça.
Changeons-la
dans le sens que de toute façon le président de la République, sans faire de grandes réformes, il pourrait convoquer chaque année, par exemple, sur un thème qui concerne tous les Français, un référendum. Il faut rien. Pourquoi il a promis un référendum sur l'écologie? Très bien, c'est un thème, mais mis comme ça, alors pourquoi ne pas demander par référendum est-ce que vous êtes pour ou contre la paix dans le monde? Enfin, et en plus.
Mais par exemple, là, vous auriez aimé qu'il y ait un référendum sur le projet de réforme des retraites.
Ben oui, parce que d'ailleurs, il aurait évité de bloquer la ville de Paris et d'autres grandes villes pendant un mois. Et puis, permettez-moi, le problème, ce n'est pas en tout cas seulement d'Emmanuel Macron. Toutes les majorités qu'on a eues, surtout dans les derniers 15-20 ans, ont fait le même erreur. Dans le sens, j'arrive au pouvoir, j'ai la majorité. Deux choses. Première, les Français pouvaient aussi décider de voter. Enfin, c'était pas parce qu'ils avaient voté un candidat précédent qu'ils devaient voter forcément son même parti quand il y a eu les législatives. Enfin, chacun de nous doit aussi prendre en main son destin.
Ça, c'est le système qui veut ça.
Oui, mais d'accord. Mais moi, si j'ai envie de
phénoménale, les gens qui n'étaient pas qui n'avaient pas voté Macron n'ont pas été votés aux législatives en masse. Et les députés de la République En Marche ont été élus avec la plus faible majorité populaire, puisqu'il y a eu un taux d'abstention phénoménal.
Oui, mais
ça participe de la crise aujourd'hui de la représentation. Bien sûr. Et que Macron ne le comprenne pas, qu'il ne soit pas capable, par exemple, de défendre la proportionnelle, qui d'ailleurs était une des conditions de l'accord avec Bayrou, ça prouve bien qu'il est pas là-dedans, qu'il veut pas réconcilier les Français autour d'un nouveau pacte démocratique.
Non, mais je me tourne vers le passé, là.
Oui, ça sert.
Exactement. Ouais. Le président Macron a aussi été marqué par les frondeurs. Donc je pense qu'il a été aussi vacciné. C'est pas que je le défends, mais aussi j'essaye de comprendre pourquoi il en est venu là avec son côté très jupitérien. Donc c'est qu'il veut pas, j'allais dire, renouer avec des gens qui, au sein de sa majorité, eh bien.
Il y a pas de risque là. Hein.
Comment ?
Il y a pas de risque.
Non, non, mais en tous les cas, c'est une volonté de sa part. C'est une volonté de sa part qui n'est pas au sein de sa majorité des frondeurs. Bah. Ensuite, concernant, moi, je crois vraiment, et je vais être redondante, mais je crois vraiment à ce qu'a écrit Pierre Rosanvallon. À un moment, il faut aussi, j'allais dire, dépoussiérer cette démocratie et aller vers une démocratie plus participative. On peut aussi s'inspirer de ce qui se passe en Suisse. Ouais. Enfin, je suis encore redondante, mais sur certains sujets, donner la parole aux citoyens.
Sur des référendums.
Voilà, et donc pas tout le temps penser pour le citoyen, mais avec le citoyen. Donc,
les Français
aussi que
sont considérés comme des personnes immatures du point de vue politique, parce qu'on a peur qu'ils s'expriment sur tel ou tel sujet. Mais laissons, posons-leur la question.
Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler donc de Mila, cette jeune fille de 16 ans qui s'est exprimée, qui a donné son avis sur l'islam. Et donc, deux enquêtes ouvertes, l'une pour menace de mort et l'autre également, une autre plainte déposée contre elle. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkov. Donc c'est une double enquête qui vient d'être ouverte dans l'affaire Mila. On vous en a parlé déjà ici même le week-end dernier. Cette adolescente donc de 16 ans a été violemment menacée de mort et de viol par des milliers d'internautes pour avoir critiqué l'islam au cours d'une vidéo Instagram. Donc le parquet de Vienne a ouvert une enquête pour menace de mort suite à la plainte qu'elle a déposée, mais également une autre plainte contre elle. Et c'est vrai que ça repose la question du délit de blasphème, puisque la plainte considère que c'est une incitation à la haine raciale. Cette plainte a évidemment suscité énormément de réactions. Je vous propose d'écouter hier Abdelaziz Zekri, délégué général du Conseil français du culte musulman, qui était interrogé par Christophe Bordet dans Les Vraies Voix.
Arrête un petit peu de tout mélanger. Moi, je dis cette fille, elle sait ce qu'elle a dit, elle a pris ses responsabilités, qu'elle critique les religions, je suis d'accord, mais d'une vulgarité pareille, d'insulter et tout ce qui s'ensuit. Eh bien, écoutez, maintenant, elle assume les conséquences de ce qu'elle a dit. Maintenant, on nous dit qu'elle a été draguée, qu'on a dit sale française.
Jusqu'à être égorgée ?
Attendez, est-ce qu'il a la preuve, cette fille ?
Non, mais jusqu'à être égorgée, monsieur Zekri ?
Pardon ?
Jusqu'à être égorgé, parce que vous terminez phrase
dit, au début,
excusez-moi, c'est Monsieur Chevrier.
Au début, il a condamné.
C'est inquiétant. Oui, mais là, on entend
plus. C'était hier. Donc, elle prend ses responsabilités. En gros, ce qu'il dit, c'est elle a attaqué l'islam et elle en subit les conséquences.
Ouais, bah moi, je trouve ça scandaleux. Bon, déjà, comme vous le rappeliez, Valérie, le délit de blasphème n'existe pas en France. Et heureusement, on peut critiquer une religion. Mais dire que l'islam, et c'est cette lycéenne qui tenait ses propos, que l'islam est une religion de merde, là aussi, ses propos sont quand même intolérables. Et ça incite pas au vivre ensemble, puisqu'elle insulte des Français de confession musulmane. Je comprends que ses propos aient pu les blesser. Après, qu'elle soit menacée de mort, menacée de viol,
d'être égorgée.
là encore,
c'est
inadmissible.
Parce qu'elle répondait, elle répondait à des insultes qu'elle avait reçues précédemment à propos de l'homosexualité.
Oui, mais vous voyez, moi, voilà. À la haine, moi, je réponds pas par la haine. À la violence, je ne réponds pas par la haine.
Elle a 16 ans. Elle a 16 ans.
Oui,
ça
mais
pose...
moi, ma fille, elle a 4 ans et demi et je l'éduque de manière à, voilà, à tenir, enfin, voilà, dans le vivre ensemble et je lui inculque aussi des valeurs afin de. Mais je vous dis, la haine incite à la haine, la violence incite à la violence.
Mais c'est pas le sujet.
Mais c'est pas le sujet. Par contre, je reviens sur le sujet. Je reviens sur le sujet. Bien sûr que les menaces de viol et les menaces de mort, mais c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et quand j'entends ce monsieur,
Abdellah Zekri,
du Conseil français du culte musulman, qui dit « Eh bien, elle l'a bien cherché », mais
ça c'est hallucinant.
Là aussi, c'est hallucinant.
Si un catholique ou un juif avait dit la même chose, par
au contraire, lui, il aurait dû faire.
Religion,
oui, mais au contraire, lui, il aurait dû faire preuve de sagesse.
Non.
Bah oui, parce que.
Si,
écoutez, quand on a parlé encore de PMA et il y avait les catholiques majoritairement qui ont défilé contre ce projet de loi, on les a traités de tous les noms. Enfin, moi, je ne vais pas la défense d'office, mais quand un leader, un représentant d'une religion ou en tout cas d'un parti politique disent « Ah ben là, elle a bien cherché
ben, », je suis d'accord avec vous, c'est lamentable. C'est lamentable.
C'est la plainte, en fait, c'est la plainte pour incitation à la haine raciale. Est-ce que l'islam est une race?
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Non, c'est n'importe quoi. Et cette jeune fille, elle le dit très maladroitement, mais elle dit quand même une vérité fondamentale, c'est qu'une religion n'est pas une race et qu'on a le droit de dire en France que l'islam est une religion de merde, comme on a le droit de dire que le catholicisme est une religion de merde. D'ailleurs, si elle avait dit le catholicisme est une religion de merde, personne n'aurait rien dit.
Et donc,
cela révèle en effet ce qu'est...
Tout en blessant plein de personnes.
Comment est vécue cette religion, l'islam, par une partie, peut-être une minorité, j'espère une minorité, de ceux qui s'en réclament, qui non seulement sont sexistes, sont homophobes, mais également, et peut-être même plus gravement, sont également antisémites. Parce que c'est tout ceci qui apparaît aujourd'hui et dont on n'ose pas parler, dont on n'ose pas dire effectivement que ces dérives-là sont portées par une religion qui devient une idéologie et qui exclut tous ceux qui ne ressemblent pas à ceux qui s'en réclament. Donc on est dans une sorte de totalitarisme. Alors là, vraiment, une dictature, du coup. Et c'est vraiment...
C'est la question de la justice.
Et la République, là-dedans, ferme les yeux, baisse les bras, peut-être, et même collabore quand certains appuient effectivement une démarche qui viserait à condamner cette jeune fille alors qu'il faut la défendre. Voilà.
Alexis,
moi j'ai pas vu la vidéo.
Moi non plus.
Donc, j'ai lu ses propos, peu importe.
Elle critique la religion, elle critique l'islam.
Ce qui est inadmissible, c'est de toute façon d'être menacé de mort, de je ne sais quelle représailles. Ça, c'est absolument intolérable. Mais après, on sait très bien aussi comment fonctionnent les réseaux sociaux. C'est pas la première fois qu'il y a des gens qui font des...
C'est pas les réseaux sociaux, la question que je pose ce matin...
Les réseaux sociaux qui amplifient ce phénomène, qui donnent à voir des propos...
Mais Alexis, la question que je pose, c'est le parquet qui attaque cette jeune fille pour incitation à la haine raciale.
Mais c'est lié à ses propos à elle. Le parquet a
mais
estimé.
Elle critique
moi,
une
je
religion.
Sais pas, je peux pas vous
est-ce
dire.
Que quand
puisque
on... Non, mais est-ce que quand
pas
on
étendu les propos qu'elle a tenus.
Est-ce
donc
que
je peux
quand
pas
on critique une religion, c'est de la haine raciale?
Non, c'est pas du
non,
racisme.
Ce n'est pas du racisme. Après, est-ce que elle a parlé que de religion? Je n'en sais rien.
Oui, elle n'a pas. Oui, non, mais moi j'ai regardé. Elle n'a parlé que de religion.
Mais à ce moment-là, effectivement, si c'est pas parce que le parquet se saisit. Qu'elle sera condamnée.
Non,
vous voyez ce que je veux dire?
Non, mais ça pose la question.
Le parquet peut se saisir parce qu'il a vu qu'il y avait une polémique et il y a un doute sur effectivement les propos qui ont été tenus. Et puis après, en fait, elle va être relaxée. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui me gêne, c'est qu'on est beaucoup maintenant dans ce type d'échanges des intolérants répondent aux intolérants et on s'insulte, etc.
Et ça ne
construit rien de positif pour la société.
Non, mais il y a une intolérance.
Insulter quelqu'un d'homosexuel, c'est de l'homophobie. Mais si cette personne qui se fait insulter, elle répond en attaquant X ou Y pour des convictions religieuses ou politiques ou autres, ça n'a réglé aucun problème.
On fait ça.
Donc, il vaudrait mieux, effectivement, parce qu'on peut être totalement solidaire du combat qu'elle mène pour ne pas être insultée en raison de son orientation sexuelle. Après, si elle-même répond par des insultes, vous voyez, on n'en sort pas. Donc moi, je suis solidaire de
cette jeune femme parce qu'elle exprime maladroitement une liberté de penser, parce qu'on a le droit de critiquer des religions
comme
quand on a droit de critiquer toutes les idéologies. Et je vous rappelle qu'en France, vous avez un philosophe, Robert Redeker, qui est sous protection policière, je crois qu'il l'est encore, depuis 2006 maintenant, parce qu'il avait dit, semblablement, à peu près le même raisonnement, d'une manière plus sophistiquée, dans un papier du Figaro. Et donc, nous vivons maintenant dans l'indifférence totale, avec des gens qui sont obligés de se cacher parce qu'ils ont critiqué l'islam et la manière dont le prophète s'est parfois comporté dans l'histoire. Et ceci est insupportable. Et nous participons à cette traîtrise, pour reprendre le mot de mon livre. Et il y a beaucoup de traîtres ainsi qui déshonorent ce qu'est la France.
En tout cas, on ne peut pas accepter cela dans une démocratie. C'est-à-dire, le délit de blasphème n'existe pas en France. On peut critiquer une religion et cette jeune fille ne sera pas accusée de racisme puisque la religion...
On verra. Merci. Il faut rendre l'antenne. C'est André Bercoff qui arrive. Merci à tous les quatre. Très bon week-end à l'écoute de Sud Radio.